Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. On s'était arrêté sur Deutéronome 17 au verset 20. Il était question du roi, du futur roi qu'aurait Israël. Dieu donnait des conseils et le conseil important c'était qu'il ait la copie de la parole de Dieu. Hein, au verset, c'est écrit au verset 19, il devra l'avoir avec lui, Deutéronome 17, 19 à 20, il devra l'avoir avec lui, donc la copie de la loi, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. On voit que le Seigneur garantit que si le roi à venir lisait les Écritures, ça serait un roi simple, ça serait un bon roi. Donc c'est pour dire que lorsqu'on lit vraiment les Écritures sérieusement, ça ne peut produire que des gens bien. Et si Dieu demande cela au roi de l'époque, d'avoir la copie de la loi, ce qui allait faire de lui un homme humble, qui ne va pas se croire au-dessus des autres, à combien plus forte raison nous, aujourd'hui, qui avons la possibilité, avec l'imprimerie, d'avoir des Bibles facilement. Donc nous sommes appelés à lire cette parole chaque jour. Ça nous permettra de garder la nature divine en nous. Et nous continuons Deutéronome 18. Je laisse l'ancien Simon lire.
Deutéronome 18. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine.
Voilà. Donc, le Seigneur rappelle quelque chose qu'il a déjà prononcé avant. C'est quoi ? C'est que le Lévite, le sacrificateur, la tribu de Lévi, n'a pas de part ni d'héritage. Avec Israël, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la répartition des terres, ces gens-là n'ont pas de terres. Donc, c'est des gens qui vivent dans les terres des autres. Et ils n'ont pas un travail humain comme tout le monde. Et il dit, c'est l'Éternel qui est leur héritage. C'est Dieu qui est leur richesse. Aujourd'hui, les Lévites et les sacrificateurs, c'est nous les chrétiens. Tous, parce que c'est écrit dans Apocalypse 1:6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce n'est pas un groupe spécial d'individus, c'est tous les chrétiens qui sont sacrificateurs. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le chrétien n'a plus à avoir une maison ou bien un terrain ou cultiver ou quelque chose ou travailler comme tout le monde ? Non, ce n'est pas ça. C'est que maintenant, nous saisissons l'interprétation de ce qui est dit là. C'est que notre héritage à nous, notre part à nous, c'est Dieu lui-même qui est notre part à nous. Et il est écrit que le Lévite ici devait être nourri à travers les sacrifices que venaient faire les autres. Donc, dans son travail de sacrificateur, dans son travail de lévite, il allait avoir la nourriture à partir de ce que allaient faire les autres. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire tout simplement que même si la plupart d'entre nous auront toujours à travailler comme les humains travaillent, cependant, leur héritage, leur richesse, leur nourriture viendront de Dieu lui-même. Ce n'est pas vraiment le travail que la personne fait. La personne peut être millionnaire, mais sa vraie richesse, ça reste Dieu lui-même. Donc nous prenons l'interprétation spirituelle qui est là, nous mettons ça aux chrétiens. Donc même s'il va travailler, son héritage, c'est Dieu lui-même. Lui doit compter sur Dieu. Il n'a pas à compter sur son travail. Il n'a pas à compter sur son salaire. Il doit compter sur Dieu pour sa subsistance. Il doit compter sur Dieu pour son avenir. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous devons nous comparer aux lévites et aux sacrificateurs. Notre part, c'est Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. C'est-à-dire que c'est dans notre intimité avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, que nous aurons toutes les autres bénédictions. Ça n'exclut pas qu'on travaille, mais on nous précise bien que c'est la relation, c'est ton travail dans le Seigneur qui sera ta richesse, qui produira ta richesse. C'est très important de comprendre ces choses-là, parce que ici, c'est le travail de sacrificateur qui allait faire que le sacrificateur mange. Donc, parce qu'il va avoir une part dans les sacrifices qu'il fait. Donc aujourd'hui, pour nous chrétiens, c'est dans le service au Seigneur. C'est dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, comme c'est écrit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand ton âme prospère, tu vas voir le reste. Mais ce n'est pas un appel à ne pas travailler, c'est juste à se concentrer sur le fait que c'est la relation, c'est notre fonctionnement de l'âme qui va produire la vraie richesse qui vient de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui ne fonctionnent pas correctement avec Dieu vont manquer de tout. Non, sinon dans ce cas-là, les païens n'auraient rien du tout. Ça veut dire tout simplement, ils vont avoir des choses, mais qui ne sont pas un vrai enrichissement. Parce qu'il est écrit dans Proverbe que la bénédiction de Dieu, l'enrichissement de Dieu, n'est suivi d'aucun chagrin. Mais eux, ils vont avoir des choses, mais il y aura du chagrin dans les choses qu'ils vont avoir. Ils vont être milliardaires, mais il y aura du chagrin dans cela. Mais nous, nous allons recevoir du ciel, peu importe le travail qu'on va avoir sur terre, qu'on ait un salaire de 50 000 euros par mois ou de 500 euros par mois, on sera heureux, on ne manquera de rien et c'est une bénédiction qui ne sera suivie d'aucun chagrin. C'est ça la différence. Alors mon conseil, c'est recevoir la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin plutôt que de recevoir des richesses qui vont produire du chagrin parce qu'elles ne viennent pas directement de Dieu, elles viennent de la chair ou du monde ou du diable. Donc voilà, donc soyons comme les lévites, sachant que la prospérité de notre âme, ça produira aussi la prospérité pour tout et jusque la bonne santé. Voilà ce que nous dit 3 Jean 2. C'est la même chose que les Lévites. Deuxième chose, au verset 8, il est dit, « Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. » Donc là, on nous explique qu'un Lévite qui décide, par exemple, de déménager, il quitte Rouen, pour aller habiter à Marseille, ben on dit que les Lévites qui sont à Marseille puissent partager avec lui à part égale tout ce qu'ils reçoivent par rapport au travail qu'ils font. Donc ils ne vont pas faire de discrimination parce que celui-ci vient de Rouen. Donc on ne lui donne pas la même chose. Donc ils auront la même part du moment qu'il est Lévite, il arrive là-bas, il va avoir la même part qu'eux dans le partage de tout ce qui est lié au travail du Lévite. Et il est dit aussi, et des revenus de la vente de son patrimoine. Ça veut dire que quand il a quitté Rouen, il a vendu sa maison. Maintenant, on peut se dire, mais tiens, on a dit mais qu'ils n'auraient pas d'héritage. Oui, les Lévites n'ont pas d'héritage dans le sens que la terre ne leur appartient pas. mais ils avaient des attributions de terre juste pour habiter. Et c'était souvent dans la ville. Dans la ville seulement. Et on a lu ça dans certains textes quand on parlait du jubilé, par rapport à une maison qui est dans la ville, entre les murs, et une maison qui est à l'extérieur. Ça n'avait pas la même implication. Et bien, les Lévites, et ils avaient des maisons qui ne devaient pas produire, par exemple, du blé, produire des richesses. C'est juste pour habiter. C'était quelque chose qu'on leur accordait pour vivre. Mais c'était quand même leur maison et ils pouvaient vendre ça. Donc c'est pour qu'on ne s'étonne pas. On dit d'un côté, ils n'ont pas d'héritage et de l'autre côté, ils ont un patrimoine. Le patrimoine, c'était juste le logement. Pas pour produire, alors que les autres avaient souvent une maison avec un terrain pour produire des choses. Mais le Lévite, non. C'était juste pour son logement, mais c'était quand même un bon logement qu'il pouvait vendre, c'était son patrimoine. Mais la terre en elle-même ne lui appartenait pas. C'est la terre d'une tribu, une autre tribu. Lui, il va construire son logement pour faire son boulot de sacrificateur de Lévite. Mais la maison qu'il a construite, c'est son patrimoine quand même. Voilà, c'était pour expliquer qu'il n'y a pas de contradiction. C'est juste que, avec sa maison, il ne pouvait pas produire des richesses comme les autres. C'était juste pour loger, mais ça restait quand même une maison. Nous continuons, verset 9 à 19. À 14, pardon.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces choses, de ces abominations, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.
Voilà, donc, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et lorsqu'on voit Dieu chasser les autres nations, souvent certaines personnes ont eu une sensation d'injustice, comme si Dieu favorisait le peuple d'Israël par rapport aux autres nations. Ce n'était pas du favoritisme. Ces gens-là, donc le Seigneur explique au verset 12, « Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Donc c'est parce que ces nations-là étaient dans l'abomination par rapport à Dieu. C'est pourquoi il les chasse, pour leur montrer qu'ils étaient en abomination, parce que toute la terre appartient au Seigneur. Que ces gens-là soient en abomination, offenser Dieu. Et le Seigneur demande aux enfants d'Israël de ne pas répéter les mêmes choses, parce qu'ils subiraient aussi le même sort. Et je pense que l'histoire est pleine d'exemples de souffrance des enfants d'Israël à cause de leurs péchés, pour montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme. De la même manière qu'il a frappé les autres nations en les chassant devant Israël, il a fait ça aussi à Israël en les mettant en esclavage sous d'autres nations et parfois en les chassant aussi comme les autres nations. Et donc nous revenons sur ce que Dieu interdit, que nous trouvons chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Hein. Il y avait des rituels où on faisait passer les enfants par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc on comprend que tout ce qui est horoscope, tout ça, c'est démoniaque. Donc on ne peut pas avoir au milieu de nous des gens qui lisent l'horoscope tranquillement en se disant chrétien. Tout ce qui est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de mouvements chrétiens, les gens cherchent quelqu'un pour leur dire l'avenir. Donc on le voit, certaines personnes, on les reçoit en entretien, ils attendent qu'on leur dise l'avenir. Donc ça, c'est des devins. Donc on veut, certains pasteurs se sont transformés en devins, en augures, en magiciens. Bien sûr, il y a le don de parole de connaissance. Mais c'est le Saint-Esprit qui exerce ce don-là en nous. Ce n'est pas à nous de déterminer, de forcer. Donc oui, si le Seigneur nous utilise, On peut dire des choses cachées aux gens. On peut aussi prophétiser l'avenir aux gens. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas sur commande. Ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est la commande. Donc, il entre dans ton bureau, il veut que tu appuies sur un bouton et que tu lui dises son avenir. Il veut que tu appuies sur un bouton et puis que tu lui dises les choses cachées. Ça, c'est sur commande. Donc là, on est dans les devins, astrologues, augures, magiciens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons faire la volonté de Dieu. Si Dieu nous inspire une parole de connaissance, on dit. S'il nous donne une profession, on dit. Mais s'il ne nous donne pas, la parole de Dieu est suffisante pour répondre aux problèmes des gens. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu et commencer à chercher à tout prix des choses du genre devin, augure. C'est très dangereux. Dieu est contre cela. C'est comme ça que beaucoup sont devenus sorciers sans en rendre compte, parce que voulant tellement entrer dans le domaine invisible, et ils ont fini par attraper la sorcellerie ou des esprits de divination. Donc, il faut faire très attention. Nous devons laisser Dieu nous utiliser et non pas appuyer sur commande. On a en face de nous quelqu'un, on veut à tout prix lui prophétiser quelque chose. On veut à tout prix sortir une parole de connaissance. Ça, ce n'est pas biblique. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour répondre aux soucis des gens. Maintenant, si Dieu veut en plus manifester le don de la parole, des paroles de connaissance, le don de prophétie, c'est très bien. Voilà. Mais la parole suffit à régler tous les problèmes. Nous continuons, verset 15 à 19.
Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée. Quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir », l'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. »
Voilà. Là, il s'agit carrément de la prophétie sur Jésus. Donc, une fois, on a fait un séminaire sur Jésus. On a montré que dans presque chaque livre de la Bible, il est question de Jésus. Et dans Deutéronome, c'est très connu par nos aînés. C'est très connu par les chrétiens qui ont une certaine ancienneté. Deutéronome 18, 15 à 19 est une prophétie claire et nette sur le Seigneur. Parce qu'on parle d'un prophète. Un prophète, on ne parle pas de plusieurs prophètes, on parle d'un prophète comme Moïse. Donc, il va jouer un rôle d'intermédiaire comme Moïse. Le rôle qu'on voit dans Deutéronome 5.5, on peut lire ancien. Deutéronome 5.5, c'est ce rôle que Moïse a joué. Il s'est mis entre Dieu et le peuple et il écoutait Dieu pour transmettre au peuple parce que le peuple a eu peur. Dans Exode 20, le peuple a dit « Nous ne voulons plus écouter Dieu directement en face parce qu'il nous fait peur, il nous fait trembler. On veut qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute et qui nous parle. » Et Moïse s'est mis au milieu. Donc, il n'y a que Moïse et Jésus qui ont joué ce rôle-là. Nous lisons donc Deutéronome 5.5.
« Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. »
Voilà. Donc Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple pour recevoir la parole de Dieu et leur dit, parce qu'eux, ils avaient peur d'affronter Dieu face à face. Et là, Dieu dit, je vais envoyer, je susciterai, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Hein, au verset 18, il dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi » en parlant de Moïse. Donc un prophète qui va avoir le même rôle que Moïse, le rôle d'apporter la parole de Dieu. Il n'y a que deux personnes dans la Bible qui ont apporté la parole de Dieu. C'est Moïse et Jésus. Tout le reste n'ont fait que dire des choses que Moïse et Jésus ont déjà dites. Tout le reste, que les apôtres ont dit les paroles de Jésus et des prophètes, les prophètes d'autrefois, en quelque sorte, rappelaient ce que Moïse avait déjà déclaré de la part du Seigneur. Mais les gens qui ont amené quelque chose de nouveau, quelque chose de directement de Dieu, ce qu'on peut dire la parole de Dieu, c'est Moïse et Jésus. C'est pourquoi Moïse est intouchable au milieu des Juifs. C'est lui qui amène la parole de Dieu. Et même quand on lit l'apôtre Paul, il parle souvent de ça, que quand il parle de la loi, il parle de Moïse directement. Donc c'est Moïse qui amène la loi et Jésus amène la grâce et la vérité, comme nous dit le frère Jean dans Jean chapitre 1, verset 17. Et c'est pourquoi Deutéronome 18 est bien compris par les chrétiens comme étant une prophétie claire et nette, même pas que les chrétiens, même les juifs. Donc on va lire dans Jean 1, chapitre 45. Donc même les juifs avaient compris Deutéronome 18 comme étant, 15 à 19, comme étant la prophétie sur le Messie qui allait venir. Donc le prophète que les juifs attendaient, ils ont considéré que ça a été promis donc dans Deutéronome 18, 15 à 19. On peut lire aussi Jean 1, 45.
Jean 1, 45. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. »
Voilà. « Nous avons trouvé celui dont il est écrit, dont Moïse a parlé dans la loi. » Donc c'est cette prophétie-là de Deutéronome 18. Moïse a dit, il y aura un prophète comme moi, avec le même ministère, un ministère comparable au mien. Pas les autres prophètes simples qui sont venus plus tard, un prophète principal, un homme particulier. Donc c'est pourquoi on a dit un prophète. Et donc c'est celui-là que les Juifs attendaient. Les Juifs attendaient le prophète, ils attendaient le roi Messie. Et donc finalement, c'était ce personnage qui allait être à la fois le prophète et le roi Messie. Donc il y a des gens qui l'attendaient comme le prophète. On voit quand Jésus dit dans Matthieu 16, il demande à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Chacun dit, mais tu es le prophète qui doit venir. Voilà, donc c'est toujours Deutéronome 18. Donc le prophète que Moïse a annoncé, les gens l'attendent. Et de l'autre côté, les gens attendent aussi le roi que Dieu établit, donc dans selon psaume 2, 6. Il établit le roi sur Sion, donc un roi à venir, le descendant de David sur Sion. Donc les gens l'attendent aussi, donc finalement on se retrouve avec les deux personnages qui se confondent, et le prophète à venir ainsi que le roi Messie. Et cette prophétie est claire, et il dit même, il faut que vous l'écoutiez, si vous ne l'écoutez pas, je vous demanderai des comptes. Personnellement, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà, donc le Seigneur, Moïse, promet la venue du Messie à travers ce passage. C'est un passage que tout chrétien devait connaître, Deutéronome 18, 15 à 19, où la promesse du Messie est faite clairement comme étant le prophète qui va être comparable à Moïse. Oui.
Donc, les Juifs qui sont pas sauvés encore voient Jésus comment? Ils voient comme un simple prophète? Ils attendent encore le prophète?
Non, ils voient Jésus comme un usurpateur, comme une sorte de charlatan.
Ah bon? Pour toutes les bonnes choses qu'il a fait?
Ah non, ça c'est les musulmans qui le considèrent juste comme un prophète. Mais les Juifs, dans la population, c'est Jésus est considéré comme un charlatan. Ah oui, oui. C'est ce que les rabbins ont répandu. D'ailleurs, ils ne l'appellent pas Yeshua. Ils l'appellent Yeshu. Un diminutif, négatif. Voilà, un diminutif. Donc, quand toi, tu dis Yeshua, ils disent non, Yeshu.
Pourquoi
c'est un surnom, en quelque sorte, qu'on lui a donné pour le diminuer dans le milieu juif.
Donc, toutes les guérisons, miracles et tout ça qu'il a fait, eux, ils disent quoi de ça?
Voilà, donc je viens d'en parler même à Brazzaville, cette histoire-là. Donc, du moment, puisque on va en parler, on va en prêcher là-dessus, et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi avec les chrétiens. Les Juifs attendaient le Messie qui va le libérer des Romains. Alors, malgré les signes que Jésus a fait, ils étaient impressionnés, mais tant que ils ne touchaient pas le point de libération par rapport aux Romains, ils étaient insatisfaits. Aujourd'hui même, beaucoup de chrétiens sont insatisfaits du Seigneur. Malgré tout ce qu'on sait du Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il est le Fils de Dieu, il est ressuscité, on connaît les miracles qu'il a fait. D'ailleurs, même nous-mêmes, autrefois dans nos vies, on a témoigné, hein, même autrefois, j'ai dit, on témoigne parfois de ce qu'il fait. Mais quand tu discutes avec les chrétiens, tu sens une insatisfaction. Pourquoi ? Parce que tel que Dieu leur présente Jésus, eux, ils l'attendent pas comme ça. Ils l'attendent comme celui qui va régler leurs problèmes terrestres. Du coup, il y a peu de chrétiens qui sont joyeux. Et c'est le même cas que les juifs. C'est des gens qui avaient apprécié ce que Jésus faisait, mais tant qu'ils ne répondaient pas à leur attente de libérer Israël, ça ne comptait pas. Souvenez-vous dans Luc 24, quand Jésus demande aux disciples d'Emmaüs, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils lui répondent, ils disent, mais tu es le seul peut-être à ne pas savoir ce qui se passe. Jésus, qui était un prophète puissant en parole et en acte, mais il a été attrapé, il a été vendu par nos magistrats, il a été attrapé par les Romains, il a été crucifié. On pensait que celui qui libérerait Israël, voilà ce qu'eux, ils attendaient. Malgré le fait qu'il a ressuscité un mort 4 jours. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils libèrent Israël. Et donc, tout ce que Jésus a fait d'impressionnant, ça a touché, mais ça n'a pas atteint son objectif, du moment que eux, leur problème, c'était la libération des Romains. C'est ce qui explique qu'ils n'ont pas suivi Jésus. Parce qu'il n'est pas venu comme eux, ils attendaient. Et en plus, qu'est-ce que Jésus rajoute ? Repentez-vous. Ah, alors là, eux, ils se disent qu'ils sont corrects, ils sont fils d'Abraham. Toi, tu nous dis encore de nous repentir au lieu d'attaquer les païens, d'attaquer les Romains qui nous persécutent. Donc là, c'était la totale. Donc, ils l'ont rejeté carrément. Jusqu'aujourd'hui, à cause de ça, parce qu'on les considère comme pas du tout nationalistes. Le Messie devait être nationaliste, devait défendre Israël contre les autres nations. Lui vient nous dire de nous repentir. Voilà, donc ce n'est pas accepté. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, surtout dans les pays où il y a la souffrance, ils n'ont pas du tout la joie. Il n'y a pas que les chrétiens, les pasteurs. Ils ne font que se plaindre parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus de la bonne manière. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Les juifs, ça a été pareil pour eux aussi. Voilà. Donc, malgré tout ce que le Seigneur a fait, du moment qu'il ne les a pas libérés des Romains, ça a compté peu. Sauf pour les apôtres qui ont reçu après le Saint-Esprit pour que la révélation soit nette dans leur cœur. Nous continuons, versets 20 à 22.
Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui.
Amen. Donc on nous donne un critère pour connaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, en termes de prophétie. Et avant cela, Dieu prévient. Le prophète qui a l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Et on se dit, mais ça fait tant de gens qui disent de fausses prophéties, mais ils ne sont pas punis, on ne les voit pas mourir d'un coup. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, la main qui frappe n'est plus la main de l'homme. Quand on dit « sera puni de mort » ici, c'était les humains qui allaient tuer le prophète. Mais Dieu continue toujours à frapper. Ces gens-là, comme l'apôtre Pierre dit, leur ruine est déjà décidée. Aux yeux de Dieu, ils sont déjà punis de mort. C'est parce que Dieu, lui, n'est pas comme nous, qui voyons 30 ans venir, 40 ans passer. Dieu, quand il a décidé que tu es mort, les 30 ans-là, c'est comme si c'était que tu seras encore vivant. C'est comme le ventilateur qui est débranché, qui continue à tourner quand même. Mais c'est déjà débranché pour Dieu. Tu es mort. Et c'est ce qui arrive, c'est ce que l'apôtre Pierre dit, que leur ruine est déjà décidée. C'est fini déjà pour eux. Mais nous, on les voit encore en action. Mais Dieu les a déjà réglé leur compte. Parce qu'ils sont en train de parler au nom de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui leur parle. Et il dit, mais comment savoir que ce que dit le prophète ne vient pas de Dieu? Mais quand ça n'arrive pas. Donc il dit, le prophète, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Pourquoi il dit n'aie pas peur de lui? Parce que nous avons tendance à craindre, à obéir, à respecter les gens qui prophétisent. L'homme aime ça. Quand quelqu'un prophétise, ça l'impressionne. Il dit n'aie pas peur de lui parce que ce qu'il a prophétisé n'est pas arrivé. Mais malheureusement, c'est pourquoi on dit que tout le monde doit lire la Bible. Malheureusement, malgré les fausses prophéties de beaucoup de personnes, Branham, le premier, entre autres Branham, il a prophétisé la fin du monde en 1977. Ça n'est pas arrivé. Il a fait d'autres prophéties. Ce n'est pas arrivé. Mais les gens continuent à suivre Branham. Il y a dernièrement Tibi Joshua. Il a prophétisé que c'est Hillary Clinton qui serait présidente des États-Unis. Ça n'a pas marché, mais les gens continuent à le suivre. Les gens sont têtus. Ils iront en enfer consciemment. C'est-à-dire que tu te retrouves en enfer avec ta propre signature. Tu achètes toi-même ton billet. Le monsieur prophétise clairement devant tout le monde que c'est Hillary Clinton qui va être présidente. Et elle n'est pas présidente et vous continuez à le suivre. Deutéronome 18 est clair. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. L'autre là, Bernard Blessing, pareil, le Ghanéen, lui aussi avait prophétisé que ça serait Hillary. Ce n'est pas passé. Mais continuez à le suivre. Vous allez dire après la faute, c'est à qui? Pourtant, tout est dit là. Il y aura toujours des gens qui vous disent, mais non, c'est des vrais, mais c'est des vrais en fonction de quoi? Ils ont eu de l'audace. Mais bon, moi, je ne pense même pas que c'était vraiment de l'audace, parce que le sondage mettait Hillary gagnante. Ça, ce n'est même pas l'audace. C'est-à-dire qu'ils ont suivi les sondages, si on peut dire la vérité. Ils ont suivi les sondages. Le sondage mettait Hillary Clinton gagnante. Allez, on y va. Ça doit être elle. Même les gens qui les suivent, quand eux, ils ont prophétisé Hillary Clinton gagnant, ils devaient se dire, mais c'est trop facile. Même, il s'appelle comment le président actuel, Donald Trump, était convaincu que c'est Hillary qui allait gagner. Même lui-même. Tout le monde détestait Donald Trump. Tous les sondages montraient que c'est Hillary qui allait gagner. Même Donald Trump était convaincu qu'Hillary allait gagner, mais il faisait du bruit seulement. Ça, c'est des prophéties, même pas audacieuses. Mais ça a quand même raté, gloire à Dieu. Pour que les gens voient bien que c'est des faux serviteurs de Dieu. Il y en a un là qui se trouve au Kenya, au War. Lui, il avait prophétisé que la tour Eiffel allait tomber. Je crois, j'ai oublié l'année. Mais l'année est déjà passée, hein. Ne vous en faites pas. La tour Eiffel est toujours là. Maintenant, ils ont trafiqué la vidéo. Quand ils ont vu que ce n'est pas arrivé, ils ont trafiqué la vidéo. C'est devenu les tours du Japon, les tours de Fukushima. Quel est le lien entre des tours de centres nucléaires, vous savez, les cheminées de centres nucléaires là? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser des cheminées qui vont tomber? Non, il avait dit Eiffel Tower en anglais, il avait dit la tour Eiffel. Après, ils ont trafiqué la vidéo. Oh, non, ils voulaient dire les tours de Fukushima au Japon. Mais ça ne sonne pas pareil. Eiffel Tower et puis Fukushima Tower, c'est pas pareil. Mais c'est les échappatoires des faux prophètes. Et malheureusement, les gens continuent à suivre, puisqu'un jour, Howard a fait pleuvoir. Mais les féticheurs aussi font pleuvoir. Il y a des magiciens qui font pleuvoir aussi. Parce qu'un jour, il a fait pleuvoir. À partir de là, on croit qu'il est un prophète de Dieu. Non, Dieu, le Seigneur dit non. Si ce que le prophète dit n'arrive pas, considérez que ce n'est pas moi. Mais c'est vrai, je suis d'accord, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Mais en tout cas, ce qu'il a dit n'est pas de Dieu. Maintenant, quand les fausses prophéties se répètent, ah ben, on doit quand même être d'accord pour dire que c'est des faux prophètes, comme dans le cas de Branham. Oui.
Question Internet. Bonsoir. Moïse a enfreint un des 10 commandements en tuant un Égyptien. Il a aussi refusé la mission de l'Éternel. Aaron, devant être le porte-parole de l'Éternel en quelque sorte, qu'en pensez-vous?
J'ai pas compris.
Alors, Moïse a enfreint un des 10 commandements en tuant un Égyptien.
Oui.
Il a aussi refusé la mission de l'Éternel. Et je pense que Aaron, devant être le porte-parole de l'Éternel en quelque sorte, qu'en pensez-vous?
Bon, déjà, quand Moïse a tué l'Égyptien, il n'y avait pas encore les 10 commandements. Donc, les 10 commandements sont venus après. Donc, bon, pour dire, peut-être qu'on peut dire qu'il a enfreint par anticipation, peut-être, mais bon, les 10 commandements n'étaient pas encore là. Maintenant, on a vu les conséquences. Il a payé, il a dû fuir, quitter l'Égypte. Donc, ça, à l'époque, ça marchait par les conséquences. Tu fais quelque chose, il y a des conséquences. Maintenant, oui, je suis d'accord avec l'internaute pour dire que Moïse a résisté à Dieu par rapport à sa mission. Il n'a pas refusé, il a résisté parce qu'il a accepté. Et dans sa résistance, dans ses complications vis-à-vis de Dieu, Dieu a été obligé de mettre Aaron comme porte, comme celui qui va parler, alors que ce n'était pas prévu. Et oui, je suis d'accord que c'est une mauvaise attitude. Il fallait que Moïse accepte totalement la mission. Et par la suite, on a vu comment Aaron a affiché des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a eu l'histoire du veau d'or, il y a eu l'histoire de la rébellion face à Moïse. Donc normalement, c'était à Moïse de prendre toute la mission. Mais il a polémiqué avec Dieu pour dire qu'il ne savait pas parler. Dieu a été obligé de mettre Aaron. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Dieu les envoie, Dieu les appelle. Mais ils ne veulent pas accepter totalement l'appel de Dieu pour diverses raisons. Et Dieu est obligé de mettre d'autres personnes, mais ça ne va pas faire l'appel exactement comme Dieu avait prévu, quoi. Donc c'est pourquoi nous devons obéir à 100% à Dieu. Il t'envoie, toi, tu fais les choses. Donc tu toujours des arguments, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Non, il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Et d'ailleurs, c'est ce dont on a parlé en Afrique. Beaucoup sont toujours en train d'argumenter, on manque de moyens, on manque de ceci, on manque de cela. Mais non, si Dieu t'envoie, fais avec les moyens du bord. Et lui-même rajoutera plus tard. Donc on doit aller faire de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas, attendez que je vous donne les moyens. Allez et faites de toutes les nations des disciples, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça qui est suffisant. Ce n'est pas ce que nous on pense, comme Moïse voulait à tout prix être un grand parleur. Non, c'est Dieu qui t'envoie, c'est lui qui a créé la bouche, vas-y. Il se débrouillera comme ça avec toi. Donc, obéissons à l'ordre de l'Éternel. À chaque fois que nous résistons, nous créons des difficultés et Dieu est obligé de s'adapter à nous. Ça freine quelque part son projet qui devait se réaliser à 100% et ça risque parfois de connaître des difficultés. Oui.
Oui, pasteur, je veux revenir sur ce que tu disais, qu'il y a des magiciens, des faux qui font pleuvoir. Pourtant, c'est un argument qu'on utilise pour présenter Jésus. Donc, on parle de sa naissance, de sa mort, mais on dit aussi qu'il a fait des miracles touchant à la création.
Oui, la différence, c'est que c'est des petites pluies. Hein. C'est pas de... Donc, Matthieu 24:24 nous prédit cela, que le Satan va faire des prodiges. Au point de séduire même des élus. Il peut, oui, mais aux yeux humains, c'est des prodiges. Mais quand on compare avec les miracles de Jésus, ça n'a pas la même dimension. Parce que même quand on parle de nos faux prophètes d'aujourd'hui, est-ce que, suivez-les bien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de miracle. Il y a plus de miracles dans les discours. Venez, veillez miracle. Journée miracle. Moi, j'étais avec un pasteur qui avait institué vendredi miracle. Et on a fait des années ensemble, j'ai vu aucun miracle. J'ai vu même pas, une jambe s'allonger. Parce que les miracles qu'on nous attrapait souvent, on fait passer quelqu'un qui marche correctement, on lui dit qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Mais lui-même ne sait pas. Oh frère, tu as une jambe plus courte. Et le prédicateur vient, il arrange. Ah mais voyez, maintenant c'est la même longueur. Comment on va voir tout ça? Donc c'est des faux miracles. Et... remarquez bien que même si Dieu a dit que Satan va faire des prodiges au point de séduire même les élus, c'est parce que les gens ne sont pas attentifs. Si tu es attentif, tu vas te rendre compte que les faux ne font pas vraiment des miracles extraordinaires. C'est d'ailleurs une fois j'ai suivi moi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté, j'ai suivi à la télé Branhamiste à Kinshasa, Branham lui-même en train de dire, en train de se défendre par rapport à ces faux miracles. Lui il n'a pas appelé ça faux miracle. Au fait, il guérissait les gens. Après deux ou trois jours, les gens retombaient paralytiques, retombaient dans leur maladie. Et maintenant, ils se justifiaient en disant c'est parce que leur corps n'est pas encore habitué à la guérison. Voilà. Or, Jésus, quand il guérissait, la personne était guérie une fois pour toutes. Elle ne retombait pas dans la maladie. Mais quand Branham guérissait, les gens retombaient dans la maladie. Et il dit, ah, mais c'est parce que leur corps n'est pas encore, habitué à la guérison. C'est ce que, donc, 2 Thessaloniciens 2, 9 appelle de miracle mensonger. Matthieu 24, 24 nous dit juste que c'est des prodiges. Mais 2 Thessaloniciens 2.9 nous précise que c'est mensonger. Parce que quand on suit ça de près, on se rend compte que ce n'est pas vraiment des miracles. Mais ça impressionne la personne qui les a vécus physiquement, est impressionnée. Mais quand on suit la chose dans la longueur, on se rend compte que c'est un miracle mensonger. Voilà. Donc, oui, ils font pleuvoir, mais c'est des petites pluies. Et c'est pas au niveau du Seigneur qui a arrêté carrément la tempête. Il a arrêté les vagues. Il a dit silence, tais-toi. Ça s'est calmé. Ça, eux, ils peuvent pas faire ça. Sinon, on les utiliserait pour éteindre le feu, non? Vous voyez le feu de forêt qu'on a souvent, qui gêne même des pays entiers. On emploie les canadaires, mais parfois ça n'éteint pas les feux. Mais si on avait vraiment des vrais magiciens qui peuvent faire pleuvoir, ben on les prendrait pour aller éteindre le feu de forêt, puisque dès qu'il pleut, le feu s'arrête. Donc c'est des petites pluies qui impressionnent les gens qui vivent ça, mais ce n'est pas vraiment des miracles au niveau de ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit « les miracles témoignent de moi », parce que les miracles que faisait Jésus, même si le diable peut faire des miracles, ce n'est pas au même niveau.
Oui, pasteur, au chapitre 13, de 1 à 2, la dernière fois, vous nous avez bien dit qu'il y a des prophètes qui disent les choses et qui s'accomplissent. Mais là, on nous dit qu'ils font des prophéties, mais ça ne s'accomplit pas.
Voilà, je voulais revenir là-dessus. Mais maintenant, quelqu'un va dire, mais là, on a dit, comment on saura que la prophétie vient de Dieu ? Peut-être dira-t-on encore, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Eh bien, si ça n'arrive pas, ce n'est pas Dieu. Donc, on aurait tendance à dire, mais donc, si ça arrive, donc c'est Dieu. Ah non, Deutéronome 13 nous dit, non, pas forcément. Lisons Deutéronome 13, qu'on a déjà lu. C'est un rappel, parce que le contexte de Deutéronome 18 nous impose de lire Deutéronome 13. Parce que quelqu'un dira, mais donc, si ça arrive, donc c'est un prophète de Dieu, si c'est que c'est de Dieu. Pas forcément. Lisons Deutéronome 13, 1 à 5.
Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu.
Amen. Amen.
Et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.
Amen. Voilà. Donc, on voit là, Dieu dit, oui, il peut se faire qu'un prophète dit quelque chose, qui s'accomplisse, un homme plutôt dit quelque chose, qui se prétend prophète, et s'accomplit. Mais est-ce que ça veut dire maintenant que c'est de Dieu? Pas forcément. Dieu dit, vous devez veiller à quoi? À l'enseignement que donne cet homme-là. Si dans son enseignement, après avoir fait un miracle, après avoir fait une prédiction qui s'accomplisse, après dans son enseignement, il nous apporte un enseignement qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas suivre ce prophète. Mais alors on va se poser la question, mais pourquoi ça s'est accompli alors? Mais Dieu dit, c'est moi qui ai permis que ça s'accomplisse. Pour vérifier si vous êtes vraiment attaché à ma parole, à mes commandements, pour vérifier si vous êtes attaché à moi et non pas à l'ambiance, et non pas à l'atmosphère, et non pas à ce qui impressionne les yeux. Et c'est comme ça que beaucoup suivent les faux prophètes sous prétexte qu'ils leur ont dit quelque chose qui s'est accompli. Donc comme ça s'est accompli, c'est forcément Dieu. Non, Dieu dit non, on doit suivre l'enseignement de la personne. Est-ce que cet enseignement nous amène à nous éloigner de Dieu? Alors, il n'est pas de Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu a laissé que ça s'accomplisse? Parce qu'il voulait voir, est-ce qu'on est attaché à la parole? Est-ce qu'on est attaché à Dieu ou on est attaché à ce qui impressionne? Donc, Dieu nous a mis à l'épreuve. C'est important, bien-aimé, d'être attaché à la parole. Restons attachés à la parole. Peu importe ce qu'on peut voir d'impressionnant, restons attachés à la parole. C'est la parole qui sauve. Ce qui est impressionnant, ça passe. Il y a des gens qui ont fait des choses impressionnantes, ils sont passés. Mais Dieu reste toujours le même. Vous savez, à l'époque, dans les années 50, je crois, il y avait un mage égyptien terrible, un grand magicien égyptien, mais il était jeune en plus. C'était un Arménien, je crois. Et il y a un riche Américain qui l'avait invité pour guérir son fils qui était, comment on appelle ça, les enfants qui ont les troubles autistes, voilà, qui avait un genre d'autisme prononcé. Et il a fait venir ce mage-là. Et d'ailleurs, un homme comme Branham, qui se prétend prédicateur, a pris rendez-vous avec ce mage-là pour discuter. Donc, un magicien, il arrive en France, et toi qui es chrétien, tu prends rendez-vous avec lui pour discuter. Et il y a des photos, hein, vous allez chercher sur Internet, Branham avec le mage égyptien, vous allez voir. Et donc, ce mage-là n'a pas pu guérir ce fils-là. On l'a amené aux États-Unis, pourquoi ? Pour guérir le fils du riche Américain. Il n'a pas pu le guérir, mais il y a des foules qui venaient le visiter pour qu'il réponde à leurs problèmes. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que les gens aiment la distraction. On l'a amené aux États-Unis pour guérir ce garçon-là. Il n'a pas pu le guérir, mais vous, vous continuez à le suivre. Parce que vous avez appris qu'il aurait fait telle chose. Mais ce pourquoi on l'a invité, il n'a pas fait. Mais les gens sont désespérés. Ils veulent toucher. Et comme Jésus, on ne le voit pas, ça ne les intéresse pas. Mais le mage, là, malgré son échec, on le voyait. Donc, il pouvait faire quelque chose. Mais il ne pouvait rien en réalité parce qu'il n'a rien fait pour ce garçon-là. Les hommes sont compliqués. Suivons tout simplement Jésus. C'est gratuit. Et il a fait ses preuves, il est ressuscité. Mais on veut suivre les techniques, on veut suivre les hommes. Oui.
Je reviens, pasteur, sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant Dieu qui parlait en direct uniquement à Moïse et Jésus. C'est bien ça?
Non, pas du tout. J'ai dit que Moïse et Jésus sont les seuls qui amènent la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Tout le reste parle de ce que déjà Moïse et Jésus ont dit.
Mais par rapport à David, lorsqu'il prophétisait par rapport à la mort de Jésus, ça vient du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui lui donne.
Oui, mais ce n'est pas nouveau par rapport à ce que Moïse dit. Moïse a déjà prophétisé, on a lu ça dans Deutéronome 18, que viendra le prophète. Donc ce n'est pas nouveau, Moïse a déjà dit ça.
Oui, mais le détail des souffrances...
Oui, même Esaïe donne ces détails-là. Mais la révélation en elle-même n'est pas nouvelle parce que ça parle de cet homme-là. Toi, tu viens donner quelques détails, mais tout ce que David pouvait dire tournerait autour de la loi de Moïse et de la prophétie sur la venue du Messie, que Moïse a déjà donné. Déjà. Oui. Le micro n'est pas allumé.
Très bien, c'est la question de la sœur Ginette au sujet des malédictions et l'endurcissement du cœur des Juifs. Hein. Et c'est pas aussi. Il y a des passages au Deutéronome 21-23. Et puis, c'est beaucoup plus clair aussi dans le livre de Galates 13. Et c'est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit : maudit quiconque est pendu au bois.
Oui,
donc,
oui.
Ça fait partie de l'endurcissement de leur cœur, non ?
J'ai pas compris.
Ça fait partie de l'endurcissement de leur cœur, des Juifs.
Que Christ soit crucifié à la croix.
Oui, du fait que Christ est mort pendu au bois, pour des Juifs, c'est une malédiction.
Oui, mais ils l'ont rejeté bien avant ça. Ils l'ont rejeté bien avant, puisque quand ils se sont détournés de lui, c'était avant la croix. Parce que tout simplement, il n'a pas, même dans Jean 6, tous les disciples l'ont quitté. Ils ne sont restés que les 12. Donc, il n'allait pas dans la même logique. Mais quand même, il a prophétisé qu'il allait mourir à la croix. Pierre aussi a dit, non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas dans leurs attentes. Donc, il y a tout ça qui compte, mais le vrai problème, c'est que Jésus n'était pas venu comme David pour les libérer des Philistins, comme Samson pour les libérer des Philistins, comme Gédéon pour les libérer des Madianites, ainsi de suite. Et Jésus vient pour les condamner, eux.
Mais du fait que c'est écrit que c'est un homme pendu au bois, pour des Juifs, c'est une malédiction.
Oui.
Donc, c'est dès le départ, vu que la mort de Jésus était pendu au bois, pour eux, donc c'était comme une certitude qui est, voilà, et ce n'est pas le Messie.
Mais toi, tu dis dès le départ, non, le départ, il n'était pas pendu.
Oui, quoi, enfin, quand il y a eu...
Mais ça, c'est après, mais ils l'ont déjà rejeté avant. Tout ça compte. Après, ça compte aussi le fait qu'il soit pendu au bois. C'est ce qu'on va voir en lisant. Donc, on va y arriver, mais ça compte. Mais ils l'ont rejeté déjà avant. Voilà. Ce n'était pas seulement à partir de là. Après, ça aussi, ça a compté plus tard. Voilà. Donc, en conclusion, un prophète, on doit suivre deux choses. Est-ce que ce qu'il dit, ça s'accomplit? On dit, ah, ben gloire à Dieu. Maintenant, on surveille quoi? Son enseignement. Est-ce que son enseignement est conforme à la Bible? Là, on dit, c'est un prophète de Dieu. Si son enseignement n'est pas conforme à la Bible, même si ce qu'il dit s'accomplit, on considère que ce n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Voilà. Donc, il faut que son enseignement soit conforme à la Bible. Si ce n'est pas conforme à la Bible, on l'écarte. Et maintenant, il peut se faire qu'un prophète qui prêche véritablement la parole de Dieu se trompe dans une prophétie. Ça peut arriver. On n'a pas dit que puisqu'il s'est trompé que c'était un faux prophète, on a dit tout simplement que cette prophétie-là n'était pas de Dieu. On n'a pas dit que c'était un faux prophète. Donc, à nous de voir par rapport à tout ça. C'est pourquoi il faut faire attention à prophétiser comme ça sans que ça vienne de Dieu. Ça risque de te discréditer pour la suite, quoi. Oui. Qui a le micro?
Bonsoir, pasteur. Moi, j'aimerais savoir. Tu sais, la Bible dit qu'on verra un arbre à ses fruits. D'accord? Et un faux prophète. Du coup, nous, en tant que chrétiens, est-ce que tu penses que c'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer clairement, nous dire, voilà, c'est un faux prophète? Ou, parce que je te donne un exemple, hein, tout simple, c'est que il y a quelques temps, j'ai rencontré quelques pasteurs, et on ne sait pas si c'est des faux prophètes ou pas. Ils ont eu des paroles prophétiques sur ma vie, et on ne sait pas si c'est des fausses prophéties, mais ces prophéties se sont accomplies. Par contre, il y a des doutes sur leur vie. Il y en a même un qu'on pense qui fait partie de la Rose-Croix, du coup. Moi, je ne sais pas comment on reconnaît quelqu'un qui vient de la Rose-Croix ou quelqu'un qui vient d'une autre franche sectaire. Je ne sais pas comment on reconnaît ces choses-là. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis.
Comment on reconnaît que...
Parce que les paroles qui ont paroles qui ont été dites... Ou ce qui a été enseigné.
Ça s'est accompli.
Ça s'est accompli et ces choses-là étaient vraies, étaient en adéquation avec la parole. Maintenant, est-ce que c'est possible, alors je ne sais pas, est-ce que c'est possible que ces personnes-là soient peut-être approchées par des gens, tu sais, de la Rose-Croix.
Une enquête.
Et qu'ils ne soient peut-être pas réveillés ou qu'ils ne se soient pas, tu sais, ils n'ont pas eu la révélation eux-mêmes qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin. Je ne sais pas si je
suis clair. Mais comment toi, tu sais qu'ils sont dans la Rose-Croix?
Bon, après, je ne veux pas dire... Je n'ai pas dit qu'ils étaient dans la Rose-Croix. J'ai dit, on se pose... Il y a eu des signes qui laissaient sous-entendre.
Alors, moi, je préfère, quand on ne sait pas si c'est exactement dans la rose-croix, on s'en tient aux fruits, comme tu nous as dit au début. Tu as dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de ces personnes-là? Est-ce qu'ils aiment l'argent? Est-ce qu'ils aiment la popularité? Donc, on va voir, les fruits vont nous montrer. Maintenant, il y a une tendance aujourd'hui qui circule dans le milieu chrétien. Il faut demander l'esprit de discernement. Donc, c'est une couverture pour dire, ah, moi, je n'avais pas eu l'esprit de discernement, parce que c'est comme ça que je me suis fait avoir, c'est faux. Le Seigneur nous a donné les éléments. Il a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Donc, nous avons tous la capacité, qui ne peut pas voir les fruits d'un arbre? Quand il y a les fruits du pommier et de l'oranger, on peut savoir, ça c'est le pommier, ça c'est l'oranger. Donc Dieu ne peut pas nous livrer comme ça aux faux prophètes et dire, mais frère, maintenant il faut demander l'esprit de discernement. Je ne dis pas que c'est toi qui as dit ça, je dis que c'est une maladie qui circule dans le milieu chrétien. Ben, il faut que chacun demande l'esprit de discernement. C'est comme si l'esprit de discernement ne nous a pas été donné. Ça nous a été donné dans Jean 16, 13, c'est dit que l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Maintenant, je ne dis pas que nous saurons nous tous tout. Il peut y avoir des gens très bien masqués que Dieu va révéler qu'à certaines personnes d'entre nous, deux ou trois. Mais ce qui est sûr, avec le temps, le fruit sort toujours, le mauvais fruit. Parce que quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, je suis d'accord avec vous. Nous-mêmes, nous avons mis du temps parfois pour reconnaître certains faux prophètes. Ça a pris 5 ans, 10 ans. Mais c'est le principe que Jésus a énoncé. Le fruit ne sort pas toujours la même année. Le fruit peut sortir 5 ans, ça dépend d'arbres. Il y a des arbres dont les fruits sortent la même année. D'autres, ça sort 5 ans, 10 ans après. Dans tous les cas, cette règle-là s'accomplira. Donc, personne ne peut se cacher indéfiniment. Tôt ou tard, avec nos yeux, nous pouvons savoir qui est vrai, qui est faux. Cependant, il y a des gens qui, avant même de voir le fruit, Dieu peut leur révéler qu'un tel est faux. Mais ces gens-là sont appelés à être prudents et à être simples pour, avant d'en parler, qu'ils attendent quand même que le fruit se manifeste. Sinon, eux-mêmes, ils prennent des précautions par rapport à eux-mêmes, mais ils ne vont pas commencer à parler de quelqu'un juste parce que Dieu leur a révélé, alors que les fruits ne sont pas encore manifestes. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu nous révèle des choses comme ça, nous devons être prudents, attendre que les fruits se manifestent pour dire, voilà les fruits. Quand on va parler aux gens, on ne va pas leur parler par rapport à, moi j'ai vu ça, non. Regardez les fruits. D'ailleurs, Dieu m'avait déjà montré. Oui, là, on peut rajouter après, mais c'est les fruits qui peuvent nous permettre de dénoncer un faux serviteur. On ne peut pas dénoncer le faux serviteur en disant juste que l'Esprit m'a montré. Parce que sinon, l'Esprit peut faire de... Donc, tout le monde peut dire la même chose de l'un et de l'autre.
Mais du coup, comme tu disais, hein, que ça prend du temps pour qu'on voit que ces fruits se...
J'ai dit qu'il y a certains cas qui prennent du temps.
Voilà, qu'il y a certains cas qui prennent du temps. Est-ce que... Comment dire, le fait que, par exemple, sur Paris, tu as beaucoup d'églises où il y a beaucoup de foules qui vont dans...
Est-ce que tu peux rapprocher le micro avant?
C'est bon, non?
Oui, mais d'accord. Parce que je n'entendais pas bien.
Ok. Il y a beaucoup de foules qui se dirigent dans des églises précises. Dans ces foules-là, il y a des gens qui aiment le Seigneur. Et est-ce que tu penses que si aujourd'hui le Seigneur revenait, est-ce que ces personnes-là seraient perdues ou est-ce que juste le Seigneur leur dirait tout simplement « Non, vous êtes trompés
». On va lire 1 Corinthiens. Je comprends ta question. Hein.
D'accord.
Maintenant, est-ce que suivre un faux serviteur nous condamne
C'est ça.
En l'affaire, on lit 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3.
1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain.
Voilà. L'apôtre dit clairement que si on ne retient pas l'évangile dans les termes que lui, Paul, annonce, on a cru en vain. Donc, quand on suit un serviteur qui explique que Jésus rend riche, il ne fait que bénir, et que c'est comme ça qu'on a cru en Jésus, ben on est perdu. Puisque Jésus, on doit croire en lui parce qu'il a été crucifié pour le pardon de nos péchés. C'est comme ça. Et parce que, pardon, j'étais arrêté avant ancien. Il faut continuer à dire qu'est-ce qu'il veut dire par les termes qu'il a donnés. Oui.
Verset 3, je crois. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures.
Donc si nous ne retenons pas l'évangile dans cette logique-là, on a cru en vain. Donc c'est pour dire que tous ceux qui suivent les prédicateurs de prospérité, ben, ils ne sont pas encore chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas retenu l'évangile tel que Paul est en train d'expliquer là. Ils ont retenu un évangile, tu viens à Jésus et il te donne ce que tu veux. Ce n'est pas du christianisme, c'est autre chose. Maintenant, parmi eux, il peut y avoir des gens sincères qui cherchent Dieu. Dieu les sortira pour leur donner le véritable évangile. Parce que c'est le véritable évangile qui sauve. On a le cas de Corneille. Il servait Dieu. Donc Dieu l'appréciait. Mais Dieu était obligé de lui envoyer qui ? Pierre, pour qu'il lui donne le véritable évangile qui doit le sauver. Il ne suffit pas que Dieu t'apprécie comme étant quelqu'un de bon dans ton cœur. C'est l'évangile qui sauve, ce n'est pas notre bonté, ce n'est pas notre, un cœur humble qui te sauve, parce qu'on a quand même toujours des péchés. Seul l'évangile sauve. Et donc Dieu a envoyé, même s'il appréciait Corneille, il aimait Corneille, il a dû l'envoyer Pierre pour que Pierre lui prêche l'évangile et que par l'évangile il soit sauvé. Donc les gens, oui, qui suivent comme ça, beaucoup ne risquent de rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas cru au vrai Christ. Ils ont cru à autre chose. Et les gens sincères parmi eux, Dieu va les sortir pour leur donner le véritable évangile. Voilà. Dieu ne va pas les laisser tomber. Oui.
Oui, pasteur, je veux revenir brièvement sur ce que tu as dit par rapport à comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Tu as dit, si la prophétie se réalise, on peut vérifier sur ses enseignements si c'est conforme à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on doit également prendre en compte les actes de cette personne, c'est-à-dire les œuvres qu'il commet dans sa vie ?
Ah oui, puisque c'est de qui on reconnaît l'arbre à ses fruits.
D'accord.
Donc les actes, la façon de vivre de la personne peut nous témoigner aussi si elle est de Dieu ou pas.
Mais dans ce cas-ci, quelqu'un, parce qu'on sait que le péché est en nous, et la personne peut tomber par la faiblesse de la chair à un moment donné.
Alors elle se repent.
Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que sa prophétie n'était pas de Dieu? Parce qu'à un moment précis dans sa vie, elle a chuté.
Non, moi je dis si la personne chute, elle doit se repentir. Si elle ne se repent pas, elle défend son péché, donc ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu.
D'accord, mais moi je parle par rapport aux gens de l'extérieur, parce que la personne peut se repentir dans son cœur, mais que dire des autres, des gens qui peut-être ont connaissance du péché que cette personne
a? Non, quand on a fait un péché public, on doit se repentir en public, on ne va pas se repentir dans son cœur. Quand notre péché est public, on doit se repentir aussi, puisque tout le monde l'a vu. Donc on doit se repentir aussi devant tout le monde. Voilà, donc si on ne le fait pas, c'est pourquoi on a entendu certaines repentances floues de Benny Hinn, tout ça. Mais ce n'est pas des repentances claires. On dit, on a prêché le faux évangile. Mais il faut dire clairement en quoi vous avez prêché le faux évangile. Je dis rapidement comme ça, ce n'est pas clair. Donc, la repentance doit être claire. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Parce que tu l'as fait pendant des années. Tu as été un homme public pendant des années. Après, à la fin, là, dernièrement, il dit, on a été éduqué comme ça, on a répété ce qu'on a éduqué. Mais il faut bien détailler les choses, puisque tu as pris 30 ans à égarer les gens. Quand tu dois corriger, tu dois mettre quand même un peu plus de 15 minutes, quoi. Voilà, à corriger. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est des fausses repentances, c'est pas des repentances claires, vu les dégâts commis. Ces repentances-là doivent être aussi sérieuses.
D'accord. Et j'ai une deuxième question. Quand on dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, je ne sais pas, peut-être c'est personnel, mais j'ai l'impression que des fois, ça peut être subtil. Ce que quelqu'un reconnaîtrait comme un mauvais fruit, une autre personne dirait que finalement, ce n'est pas un mauvais fruit. Donc, je ne sais pas s'il y a une ligne entre mauvais fruit, bon fruit, parce que, par exemple... Je suis certain chanteur de gospel américain, par exemple, et il y a une histoire d'une certaine chanteuse qui a chanté une chanson très célèbre dans le christianisme, qui s'appelle Break Every Chain en anglais. Et on la voit souvent affiliée à des artistes du monde. Oui, donc oui. Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais fruit? Donc,
ah oui, un bien mauvais fruit. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 6, 14 dit que nous n'avons pas à nous mélanger avec les infidèles sous un joug étranger. Donc ça, c'est des grands mauvais fruits.
D'accord, parce, voilà. Parce que certains
en plus,
chrétiens...
ce chant-là, ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment ça. Voilà. Oui, oui, ça fait beaucoup de bruit. Moi, je dis, mais comment les chrétiens aiment ça? Moi, je dis, mais beaucoup sont séduits, sincèrement. Donc, comment les gens aiment ce chant-là? Je ne comprends pas. Voilà, oui.
Pasteur, il y a certains chrétiens, justement, par rapport à ce cas-là, qui disent que elle parle avec amour à ces personnes et elle leur prêche la parole.
Non, elle chante avec elle. Elle gagne de l'argent en chantant avec elle. Ces personnes-là.
Oui.
C'est de featuring. Donc, l'autre met ton nom, ça fait vendre. C'est ça, on connaît le système.
D'accord.
Mais même le chant-là lui-même, moi, je ne l'ai jamais... Enfin, ce n'est pas moi qui suis Dieu. Mais je n'ai jamais compris comment les chrétiens aiment ce chant-là. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis elle dit que Jésus brise les chaînes, elle-même elle est enchaînée avec les païens maintenant. Donc je crois que c'est pas... Voilà. Choisissons la vérité, bien-aimé. Oui, Christian ?
Oui, je voulais que tu nous éclaircisses sur un point. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a été préparé depuis l'Ancien Testament, par les prophéties, par ses serviteurs, à attendre le Messie. Et le Messie est venu, et ces mêmes prophéties aussi, ces mêmes prophètes, ont aussi prophétisé sur que ce Messie va être une pierre d'achoppement pour ce même peuple. J'aimerais que tu nous éclaircisses par rapport à ça. Que le peuple, Dieu a préparé le peuple juif par des prophéties, par des messages. Et ces mêmes prophéties disent que ce Messie sera une pierre d'achoppement pour eux.
Oui, mais parce qu'entre-temps, le peuple s'est fait détourner par des mauvais vignerons. Ils ont pris la vigne du Seigneur, les pharisiens et les autres. Ils en ont fait leur vigne. Donc Jésus explique ça dans Matthieu 21. Donc ce qui fait que quand Jésus arrive... Les mauvais vignerons ont fait un travail de sape sur le peuple. Ils ont détourné la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit aussi dans Marc 7. Vous préférez vos traditions plutôt que la parole de Dieu. Donc, ce sont ces gens-là qui ont pris le peuple de Dieu en otage. Et quand Jésus vient, ils disent, voici le Fils, tuons-le. Nous allons lire Matthieu 21, la parabole des vignerons. C'est ce qui explique que quand Jésus vient, il y a tout ce complot-là contre lui. Parce qu'ils se disent, le vrai est venu, il va prendre notre pouvoir, il faut le tuer. Voilà. La parabole du vigneron, Matthieu 21, verset 33.
Matthieu 21, 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables. » Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète.
Donc ils ont compris que Jésus parlait d'eux. C'est eux qui ont pris le peuple de Dieu en otage, qui ont dévié le peuple de Dieu. Bien sûr, avec l'accord du peuple de Dieu aussi, parce que Jésus dit, mais vous avez tué les anciens prophètes. C'est ce qu'il explique. Dieu a envoyé les prophètes, on les a tués. Et Jésus, quelque part, va leur dire, vous construisez le tombeau des prophètes qu'ont tué vos parents. Et voilà, vous continuez. Et moi, je viens encore, vous cherchez à me monter la vie parce que vous ne voulez pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, tous ces gens-là ont pris en otage le peuple juif dans le mensonge, et c'est ce qui fait que Jésus est devenu une occasion de chute. Mais les gens, les vrais brebis du Seigneur, l'ont suivi. Oui.
Alors, j'ai une petite série de questions, là, Internet. Alors, la première question, on revient un tout petit peu en arrière aussi. Alors, la première question dit, que dire des mages qui ont suivi Jésus, qui ont suivi l'étoile pour aller adorer l'enfant Jésus?
Oui, on lit toutes les questions comme ça, puisqu'on est arrivé à la fin.
Deuxième question, la parole dit qu'un jour, toutes les langues et toutes les prophéties cesseront, mais à quel moment? Bonsoir, pasteur, donc on ne peut plus demander l'esprit de discernement. Et dernière question, pasteur, qu'en est-il lorsque certains font semblant de manifester de bons fruits, et cela pendant des années parfois? À quoi les reconnaître? Alors,
oui, bonne question, vraiment. Gloire à Dieu. Oui, je pense que je voulais clôturer avec la dernière question. Donc, oui, ça continue?
J'ai des questions qui ne sont pas dans
le thème. Donc là, ça sera la prochaine fois. Donc, d'accord. On les garde pour la prochaine fois. Mais les quatre, là, sont très importantes. Donc, la première, c'était les mages qui ont suivi Jésus. Quelques pensées d'eux, mais c'est une bonne chose. Ils ont reçu la révélation par l'Esprit pour venir adorer le roi des rois. Ils ne sont pas les premiers. Nebuchadnezzar a reconnu Jésus, a reconnu Dieu d'Israël comme étant le véritable Dieu. Cyrus, Dieu l'a considéré comme un berger à lui. Donc, ils ne sont pas les premiers étrangers que Dieu touche pour les amener au salut. Donc, deuxième question, c'était...
La parole dit qu'un jour, toutes les langues et toutes les prophéties...
Ah oui, les langues, ce sera... Oui, au ciel, il n'y aura plus de parler en langue... ni de prophétie, puisqu'on saura tout. C'est au ciel que tout cela se fera. Tant qu'on est sur terre, les langues continueront et les prophéties continueront. Mais quand on est au ciel, tout le monde sait tout. Donc, on n'a plus besoin de prophétie ni de langue, de parler en langue. La troisième question,
pasteur, donc on ne peut plus demander l'esprit de discernement.
Non, voilà, je ne veux pas dire cela. Je veux dire tout simplement ceci. On doit demander l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, à tout moment. Mais on ne doit pas considérer qu'on est en déficit pour dire, frère, pour certains cas, il faut l'esprit de discernement. C'est comme si c'est quelque chose qui ne nous serait pas disponible. Il faut que Dieu te rajoute à prier longtemps pour ça. Non, on doit, comme on prie pour le fruit de l'esprit, que je sois dans l'amour, que je sois dans la vérité, on doit prier pour l'esprit de discernement, que je discerne ce qui est bon. Voilà, mais pas comme un truc spécial, ce qui fait que beaucoup disent, ah, moi je n'ai pas l'esprit de discernement, c'est pourquoi je n'ai pas vu. C'est faux. Nous avons, c'est disponible à tous, l'esprit de Dieu est en nous et il nous conduira dans toute la vérité. Cette vérité-là qu'on demande, on doit la demander en même temps. On demande l'esprit de discernement. On demande tout en même temps, mais pas faire de l'esprit de discernement comme une sorte de puissance spéciale que le chrétien doit avoir. Non, non, ce n'est pas une puissance spéciale. C'est naturel parce que l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Demandons comme on demande le pain de chaque jour, la parole. C'est la même chose. C'est quelque chose qui nous est disponible puisque le Seigneur nous l'a promis. Voilà, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Quoique certaines personnes aient des dons, pour voir les choses à l'avance, mais ça c'est spécial. Mais l'esprit de discernement général, Dieu nous le donne à nous tous. Voilà. Donc j'arrive à la dernière question justement, comme Hervé a semblé aussi poser cette question-là. Mais Comment reconnaître lorsque les fruits sont vraiment, ça prend du temps, les fruits négatifs, ça prend du temps à être manifestés. Je dis, un des moyens extraordinaires de reconnaître les faux serviteurs de Dieu, c'est reconnaître le vrai. Le vrai, c'est Jésus. Bien intégrer Jésus dans sa vie. Bien observer Jésus. Bien imiter Jésus. Quand tu observes Jésus, tu l'intègres, tu l'imites, ça sera facile pour toi de reconnaître les faux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ne seront pas comme Jésus. Parce que toi, tu connais tellement Jésus que dès que tu es en face de quelqu'un, tu sens qu'il n'est pas comme le Seigneur. Ça ne veut pas dire forcément que il est faux. Après, la suite, on peut savoir les faux et les charnels, et parce qu'il y a des charnels, il y a des aventuriers, il y a tout ça dans la liste des faux. Il y a des aventuriers, il y a des charnels, il y a des audacieux, il y a aussi des infiltrés, donc des satanistes. Par la suite, on va faire la différence, mais il y a un premier temps où on sait que ça, ils ne bossent pas pour le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas comme ça. Moi, je me souviens, j'avais du mal à croire que les prophéties pouvaient être mensongères. Pour moi, je ne comprenais pas comment quelqu'un peut s'agiter, commencer à parler au nom de Dieu et mentir. Comment il peut inventer ça pour que je dise, mais d'où vient l'agitation? Je me disais, il ne mente pas. Voilà. C'est Dieu qui parle. Mais le jour où on a prophétisé contre moi, c'est-à-dire j'étais dans un séminaire. Le prétendu homme de Dieu avait une théorie comme quoi les délivrances ne peuvent pas dépasser 5 minutes. Bon, moi, je lève la main. J'ai dit, mais si ça dépasse 5 minutes, on fait quoi? Oh, mais vous arrêtez. Vous ne priez plus. Moi, je dis, ah, mais la personne continue à souffrir. Ah oui, mais non, vous cherchez la face de Dieu, vous priez, Dieu va vous donner l'éclairage. Il m'a dit, oui, mais maintenant, on cherche la face de Dieu, mais il continue toujours. On fait quoi? Ah non, mais toi, là, tu compliques. Nous, ici, on voit la gloire de Dieu. On prie pour les gens 5 minutes. Ils sont libérés. Moi, je dis, d'accord, nous, à Rouen, dès qu'on aura des cas qui dépassent 5 minutes, on va les amènera ici à Paris, comme ça. Vous... Oh, yaya. Il s'est fâché. Il y a des gens ici qui vont sécher. Oh, mais moi, je pose la question. Du coup, il y a 4 personnes qui se sont levées. C'était les sœurs. Bon, excusez-moi, les sœurs. Une sœur s'élève, elle prophétise pour lui. Une autre s'élève, elle prophétise pour lui. Une autre encore, elle s'élève, elle prophétise pour lui. 4 sœurs qui prophétisent pour lui. Ah, sans dire contre moi clairement, hein, mais attention, on ne touche pas aux soins de Dieu. Alors, moi-même, j'étais conscient que je suis un enfant de Dieu. Donc personne, dans mon cœur, je sais que j'aime le Seigneur. Je suis son fils. Alors, à l'époque, je croyais que lui aussi, celui qui parlait, était de Dieu. J'ai dit, moi, si je suis un papa, est-ce que je veux humilier un enfant contre l'autre comme ça? Deux de mes enfants ont un échange difficile et je veux humilier un comme ça, au point que 4 personnes prophétisent contre un pour l'autre. Je ne crois pas qu'un papa va faire des choses comme ça. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que ces prophéties, on pouvait mentir, c'est des esprits. J'ai dit, non, Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Être contre un enfant et pour l'autre. Dieu n'est pas comme ça. Même si un enfant a tort, il va chercher à les réconcilier. Il ne va pas vouloir humilier l'autre, écraser l'autre et écraser l'un et favoriser l'autre. Donc, quand tu connais l'attitude de Dieu, tu connais la nature de Dieu, tu connais qui est Jésus, ça va t'aider à voir les faux serviteurs. Tu vas dire non, Jésus ne parlait pas des Mercedes. Jésus, il y a des serviteurs qui vous disent, avant de répondre à l'invitation, vous êtes combien? Ah, mais comment tu veux savoir combien on est? Jésus est entré bien dans une maison, il a parlé qu'avec Marthe et Marie. Ils étaient qu'à 2. Mais un serviteur qui veut savoir, vous êtes quel nombre? Je ne dis pas, comme je l'ai dit précédemment, je ne dis pas que ça veut dire que c'est un infiltré. Ça peut être un serviteur, mais qui est léger, qui ne connaît pas encore vraiment le Seigneur. Voilà, c'est... Après, il y a des degrés, et en fonction de leurs actes, en comparant avec le Seigneur, on peut savoir là, c'est un infiltré. Parce que ce qu'il dit là, par exemple, il y a un jour, il s'est fâché parce que j'ai dit que j'ai confié ma vie à Jésus. Oh, mais comment toi tu te fâches? Parce qu'on voulait nous faire signer des alliances. tenons-nous les mains, on va faire alliance de fidélité entre nous. Moi, je dis, moi, je ne suis pas contre qu'on prie par rapport à la fidélité entre nous, mais je tiens quand même à préciser que j'appartiens à Jésus. Aïe, 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 il s'est fâché. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, mais non, je veux dire que j'appartiens à Jésus. On va prier pour l'alliance, mais moi, j'appartiens à Jésus. Il s'est fâché. Mais comment tu te fâches quand quelqu'un cite un verset biblique qu'il a pas, qui dit que nous appartenons à Jésus? À partir d'un moment, ça, c'est un infiltré. Parce que le nom de Jésus lui fait peur. Donc, après, on va savoir, plus on connaît le Seigneur, plus on va distinguer ça. C'est, non, c'est un aventurier, là, c'est un audacieux, là, c'est un infiltré. Parce qu'on va à chaque fois comparer avec le Seigneur. Lui, quand il parle, il est vraiment contre le Seigneur. Dernièrement, il y a un qui a dit, voilà, il est parti dans une église à Paris. Il est déjà mort, hein, pour vous dire que Dieu frappe toujours, Miles Monroe. Donc, il est parti dans une église à Paris et cette église-là était grande. Il dit, voilà une vraie église, elle est grande, elle est belle. Moi, je vois parfois des pasteurs avec 15 membres dire, j'aime le Seigneur, je rigole, quoi. Voilà. Donc, il n'est pas d'accord qu'un pasteur dise qu'il aime le Seigneur parce qu'il a 15 membres infiltrés. C'est quelqu'un qui est contre le Seigneur. Parce que quelqu'un qui n'est pas contre le Seigneur ne peut pas être contre que quelqu'un dise « j'aime le Seigneur ». Donc c'est un infiltré. Mais un aventurier, lui, ne va pas être contre le Seigneur. Il fait ses affaires. Donc c'est pas la même chose. Donc on va reconnaître tout le monde. Ah, lui, il cherche l'argent. On va savoir tout ça quand on va à chaque fois comparer avec le Seigneur. Donc, le meilleur moyen que je donne à tous, observons le Seigneur. Imitons le Seigneur. Et ça nous aidera à reconnaître les faux serviteurs sans problème. Écoutons les prédications des apôtres. Moi, je suivais un serviteur comme ça, qui en apparence ne montrait pas de fruits négatifs. Je le suivais sur Internet. Un jour, là vous me direz, mais ça c'est l'esprit de discernement. Non, mais enfin, un jour, je me réveille, je ne l'avais pas suivi, je n'avais pas pensé à lui. Au réveil, il y a une voix qui me dit, mais cet homme-là ne pêche jamais sur le péché, ne prêche jamais sur le péché. Je le suivais, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand la voix m'a dit ça, j'ai compris que c'était un faux. Effectivement, j'ai fait la rétrospective de toutes les prédications, il ne parle jamais du péché. Or, frère Simon, pardon, on va clôturer avec ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit quand il est ressuscité dans Luc 24? Il nous dit pourquoi il est venu. Lui-même, il nous le dit. C'est important. Luc 24, à la fin, il explique quand il est ressuscité, il explique aux apôtres. Luc 24, quand il leur apparaît, et versets 44 à 47. Versets 44 à 47.
Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Amen. Jésus dit clairement, quand il ressuscite, il veut quitter ses apôtres, il dit, mais pourquoi vous êtes déstabilisés? Mais il ouvre leur intelligence, il leur lit les Écritures, ils comprennent, il dit, mais voilà ce qui est écrit. C'était écrit que moi je devais souffrir, être crucifié, et ressuscité à partir de là. À partir de là, qu'est-ce qu'on devait prêcher à tout le monde? La repentance et le pardon des péchés. C'est ça la prédication que Jésus nous laisse. Prêcher à tout le monde la repentance et le pardon des péchés. Quand un prédicateur n'en parle pas, donc il est dans cette catégorie-là. Aventurier, infiltré, voilà. Après, d'autres détails vont nous donner ça. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, quand quelqu'un s'en va, il donne les choses capitales. Il fallait que je souffre, je sois crucifié et que je sois ressuscité. Et après cela, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, devrait être prêché la repentance et le pardon des péchés. Parce que notre problème à nous les hommes, c'est le péché. Et pour accéder au pardon, il faut se repentir. Ainsi, on devient de vrais enfants de Dieu, destinés au ciel. Dieu devient notre papa et qui peut nous toucher. Dieu devient notre papa, nous ne manquerons plus de rien. Nous sommes en sécurité, il est notre père. C'est ce que Jésus a voulu pour nous tous, que Dieu devienne notre père. Ça passe par le pardon, la repentance et le pardon des péchés. Voilà les éléments que je nous donne pour reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Allez, observons Jésus. Regardons Jésus, imitons Jésus. Souvenons-nous de ces enseignements et souvenons-nous que la prédication principale, c'est la repentance et le pardon des péchés. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée encore où tu nous as visités à travers ta parole. Nous te bénissons pour ta fidélité, car les choses ne se passent pas toujours, ne se passent pas comme on prévoit. À chaque fois, tu nous surprends par les questions qui nous aident à travers les réponses à aller en profondeur dans les Écritures, Seigneur. Merci pour les réponses que ton esprit donne, Seigneur, à travers les Écritures, afin que nous soyons de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Et nous prions que ça ne reste pas dans nos cerveaux, mais que ce soit mis en pratique, afin que nous manifestions ta gloire. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, Père. Au nom de Jésus. Amen.